Religion du monde, Geneviève Delru.
Bonjour à tous. Retour aux sources de l'islam. Dans quel contexte politique et religieux l'islam est-il né? Quelles ont été les influences du judéo-christianisme sur la religion naissante? Comment le Coran a-t-il été retranscrit après la mort du prophète Mahomet en 632? Pourquoi l'existence de plusieurs versions du texte sacré alors qu'une seule n'a été retenue? Autant de questions clés pour la compréhension de l'islam aujourd'hui. Dans cette première partie, nous recevons Michel Orcel, diplômé d'islamologie, auteur de plusieurs ouvrages sur le monde arabo-musulman. Le dernier, L'invention de l'islam, est publié chez Perrin. Dans la deuxième partie, notre invité est le chercheur et universitaire Mohammad Ali Amir Mouedzi pour son livre Le Coran silencieux et le Coran parlant chez CNRS Éditions. L'invention de l'islam de Michel Orcel se présente sous la forme d'une enquête sur la naissance de l'islam. Et contrairement à ce que pourrait laisser entendre le titre, ce livre démonte certaines thèses islamophobes. Comme tout chercheur, Michel Orcel est allé aux sources et il a rencontré les mêmes difficultés posées par les origines du judaïsme et du christianisme.
Les sources des trois monothéismes posent un peu les mêmes problèmes. Je ne parlerai même pas du judaïsme parce que c'est très complexe, ça nous entraînerait trop loin. Mais pour ce qui est du christianisme, par exemple, vous savez comme moi que les sources reconnues comme historiques par l'Église sont très tardives. Le dogme catholique s'est mis vraiment en place, définitivement, dans ses articulations les plus subtiles au 5e siècle, donc très tardivement. Alors pour l'islam, il en va un peu de même, dans ce sens où l'islam, on peut le dire, s'est mis en place tardivement, il s'est mis en place au 8e, 9e siècle, avec la dynastie Omeyyade installée à Damas, et avec l'érection du dôme du rocher sur l'esplanade du temple. Là aussi, on a un problème de source, d'autant plus que la biographie officielle du prophète, ainsi que ce qu'on appelle le hadith, c'est-à-dire l'ensemble, le corpus des dits et propos et gestes du prophète et de ses premiers compagnons, ces textes-là ont été compilés tardivement, 9e siècle, et remontent, selon la doctrine officielle, sont issus d'un processus de mémorisation et de transmission orale. Le problème, c'est que quand on étudie ce matériau avec des instruments qui sont les nôtres, ceux de la science laïque, on voit apparaître quand même beaucoup de défaillances.
Michel Orcel, donc votre démarche est celle d'enquêter sur des origines donc complexes, hein, qui sont aussi complexes finalement, même si elles sont plus récentes que celles du christianisme. Quelles ont été finalement les difficultés principales que le chercheur rencontre lorsqu'il s'attache donc à découvrir l'origine de l'islam?
C'est que l'essentiel des sources musulmanes sont des sources orales et qui ont été compilées par écrit tardivement, 2 ou 3 siècles après le prophète. Donc, il s'agit d'aller chercher d'autres éléments, ou des éléments
parallèles,
oui, c'est ça, exogènes, disons, voilà. Et c'est en partie le travail que j'ai fait, c'est pas un travail de découverte absolue, j'ai utilisé les travaux naturellement des grands islamologues antérieurs et contemporains, mais c'est en passant surtout par les sources grecques, arméniennes, syriaques...
Donc non musulmanes, en fait.
Non musulmanes, enfin, alors on passe quand même aussi par des sources musulmanes secondaires, qui ont été souvent écarté par la tradition, un peu comme dans l'Église, on a écarté des évangiles apocryphes, si vous voulez, de la même façon, hein, voilà. Mais qui ont une valeur pour l'historien.
Et alors finalement, de ces recoupements que vous allez faire, il ressort quoi?
Alors, moi je trouve que la chose la plus passionnante et la plus claire, c'est la question de l'existence du prophète et de son rôle. Nous avons plusieurs sources étrangères qui font état de l'existence, voilà, contemporaine. Enfin, contemporaine ou presque contemporaine. Alors je vous donne très rapidement le 3 exemples. Le premier, c'est un document qui date de 634, qui est un document d'apologétique chrétienne.
Donc 2 ans après la mort du prophète.
2 ans après la mort officielle du prophète. Mm-mm. Un texte daté de 634. Nous parle de Mohammed comme un prophète. Bon, alors évidemment, sur un ton critique, sur un ton... Mais
guerrier,
peu importe.
Guerrier.
Mais enfin, prophète, guerrier, ce qui, au fond, correspond tout à fait à l'image biblique. Ensuite, nous avons un autre texte. Alors ça, c'est un texte en grec. Nous avons un texte syriaque qui s'appelle la chronique de Thomas le presbytre, c'est-à-dire d'un prêtre, qui alors là est d'une grande précision, qui fait état d'une bataille entre les Arabes de Mohammed et les gens de Palestine. Bon, et les Arabes de Palestine. Et donc ça c'est vraiment daté avec une précision extrême, 640. Bon. Et puis nous avons encore 2 autres textes, maintenant de ces années 660, 670, une chronique arménienne et une chronique syriaque d'Irak, qui également vont plus loin. Le dernier texte dont je parle est intéressant parce que non seulement il fait état de l'existence historique de Mohammed, de son rôle d'envoyé de Dieu, son titre d'envoyé de Dieu, et ça c'est quand même très intéressant sous la plume d'un chrétien quand même, bon, l'Irak, et troisièmement, qui donne pour la première fois quelques éléments sur la doctrine musulmane, et notamment en faisant allusion à des rites, et à des rites alimentaires par exemple.
Alors ce qui est très intéressant dans votre livre, Michel Orcel, c'est qu'il fait ressortir tous ces points de contact précisément religieux qui existent dans cette région à cette époque. C'est une région en pleine effervescence religieuse finalement. Alors il y a cette piste tout à fait intéressante qui serait que l'islam pourrait être issu en quelque sorte d'une secte hein, ou une hérésie judéo-nazaréenne. Alors quelques mots, parce que c'est essentiel ça pourrait être une bombe si je puis dire,
oui,
une révélation,
si vous voulez, désamorçons déjà ce que l'hypothèse pourrait avoir de choquant pour les musulmans. Je rappelle aux musulmans que, d'une certaine manière, même de façon très claire, Mohammed vient restaurer le monothéisme initial, et deuxièmement, en acceptant non seulement la figure des prophètes bibliques, mais celle de Jésus. Hein, ça, c'est très très important. Bon, alors, si vous voulez, ça, c'est pratiquement déjà le cœur du judéo-nazaréisme, justement. Donc, on peut très bien imaginer, sans remettre en question la révélation coranique, sans atteindre nullement à cette croyance, on peut très très bien imaginer que l'Arabie pré-islamique ait été ensemencée par ce courant judéo-nazaréen qui avait été éliminé par Saint Paul, d'une certaine manière.
Par l'orthodoxie, hein,
chrétienne, exactement. Disons l'orthodoxie, ce qui est devenu l'orthodoxie.
Voilà, naissante.
Voilà. Mais il y avait un courant chrétien, si vous voulez, initial, qui pensait que le Christ était le Messie, était un grand prophète, et le Messie, sans croire qu'il était fils de Dieu.
Alors ça, c'est l'arianisme, ça.
Alors, presque. Donc, un des courants les principaux de cette école de pensée, c'est l'arianisme. Et donc, il y a quelque chose de cet ordre-là dans l'islam. Voilà. Donc, il n'est pas impossible c'est d'autant moins impossible que dans la biographie officielle du prophète et dans tous les récits qui l'entourent, ce qu'on appelle la Sira, eh bien, il y a deux figures chrétiennes. L'une va reconnaître, durant l'enfance du prophète, va reconnaître son rôle prophétique. C'est un moine de Syrie, de Bosra. Et puis, après, lorsqu'il a vraiment la révélation, sa femme Khadija lui enjoint de consulter son cousin Waraka,
qui est chrétien.
Voilà. Alors, qui est chrétien, et d'ailleurs, le Coran, il y a un verset du Coran qui atteste de cette présence-là, si vous voulez, et il est chrétien, mais en même temps, il n'est pas trinitariste, il ne croit pas à la consubstantialité du Verbe,
Père, le Fils,
Saint-Esprit. Oui. Il ne croit pas à l'identité de substance entre Jésus, qui serait le Fils de Dieu, et Dieu. Voilà. Donc là, on a un lien qui est patent, me semble-t-il. Hein. Il paraît clair qu'il y a quelque chose, il y a une reconnaissance, il y a une sorte de... Hein. Waraka apporte son témoignage à la vérité de la révélation coranique, mais il apporte son témoignage en tant que chrétien, croyant à un Christ qui est le Messie, mais qui n'est pas Dieu.
Michel Orcel, donc ce que vous faites ressortir dans cette enquête, c'est, comme je le disais au début, ce sont tous ces points de contact qui existent, et finalement une religion ne naît pas comme ça ex nihilo. Elle naît des influences dans lesquelles elle baigne.
Sur le plan historiciste, sur le plan scientifique, bien sûr. Et encore une fois, à mon avis, ça n'a aucun caractère scandaleux ça ne devrait avoir aucun caractère scandaleux pour les croyants musulmans, parce que, je veux dire, le christianisme a son existence, est reconnu comme une religion totalement indépendante, et on peut l'interpréter comme une hérésie du judaïsme,
absolument,
n'est-ce pas?
Bon, absolument.
Voilà. Eh bien, on pourrait dire la même chose de l'islam, qui serait une sorte d'hérésie chrétienne. Simplement, du point de vue du croyant musulman, c'est une hérésie qui retourne à la vérité première. Je crois que ce qu'il faut dire, c'est que c'est une des conclusions de mon livre, au fond, c'est que le fameux choc des civilisations est quand même un montage, si vous voulez. Alors là, pour le coup, une fabrication, parce que c'est vrai qu'il y a des différences de culture des violences interculturelles. Bon,
c'est vrai qu'il y a des violences au sein de l'islam,
non,
ça on ne peut
pas
les nier.
Absolument, voilà. Hein, mais cela dit, je crois qu'il faut revenir à cette vision un peu ample, dénuée de violence et un peu scientifique, en reconnaissant le fond commun, absolument commun, de l'islam, du judaïsme, oui, et du christianisme.
Oui, disons qu'il faut savoir revenir aux racines pour dépasser le présent.
Voilà, je pense que ça, d'une certaine manière, c'est une façon de, quand on se rend compte, vraiment, qu'on touche vraiment ces choses-là, du doigt, quand on voit tout ce que l'islam a emprunté, par exemple, au judaïsme ou au christianisme, on se rend compte qu'il y a vraiment un fond commun qui devrait pouvoir fonctionner comme socle de compréhension et d'échange, de dialogue, voilà. Thank you.
Marcel, la deuxième grande partie de votre livre porte sur le Coran livre unique, dit incréé pour la doctrine officielle, alors que les recherches démontrent qu'il y a eu en fait plusieurs Corans.
Oui, alors oui, on peut dire ça. Si vous voulez, c'est très choquant de dire ça comme ça, surtout j'imagine pour les musulmans.
C'est un raccourci,
qui nous écoutent.
C'est un raccourci très
brutal. Mais en même temps, je tiens à dire que naturellement, les églises, tous les corps constitués, qu'ils soient politiques, idéologiques ou religieux, ont tendance à simplifier et à naturellement, comment dirais-je, ériger une vérité la plus solide possible et naturellement qui se passe de nuances et de détails. Bon, et qui élimine tout ce qui peut gêner. Bon. Alors, il en va ainsi pour l'islam, qui a écarté énormément de sources, si vous voulez, qui ne collaient pas avec ce dogme du Coran
unique,
du Coran incréé et unique, parce que justement, nous avons des sources, y compris dans la tradition reconnue par les docteurs, nous avons des récits où nous voyons les plus hautes autorités post-prophétiques, si je puis dire, c'est-à-dire à l'époque des premiers califes, contester que le Coran a été unique.
Oui, il y a une citation dans votre livre.
Mais oui, je donne au moins deux citations. Il y a plusieurs citations qui sont bien connues. L'une est du fils de Omar, c'est-à-dire le premier des premiers compagnons, et un des plus intransigeants d'ailleurs du prophète, qui dit mais il y avait plusieurs Corans. Il y avait plusieurs Corans.
Et comment de plusieurs Corans en a-t-on fait un, c'est
alors,
ça hein
bon, voilà, c'est ça. Voilà. Alors, d'autre part, lorsque, si l'on suit la version canonique, Othman, le troisième calife, a demandé à Zaïd, un ancien secrétaire du prophète, de rassembler le Coran tel qu'il avait été révélé, Zaïd s'est rebellé, disant « Mais vous me demandez de faire ce que le prophète n'a pas voulu faire ». Donc, tout ça est très complexe, n'est-ce pas ? Bon, voilà. Je pense, en tout cas, qu'il faut donc d'abord se rendre compte que dans la tradition elle-même, il y a des éléments de réflexion pour un enrichissement de la réflexion des croyants sur le texte saint. Bon. Deuxièmement, et presque à contrario, ce qui est formidable, c'est que depuis une trentaine d'années, nous avons une somme de documents, malheureusement, pas suffisamment exploités, mais qui prouvent que le Coran est extrêmement ancien et pratiquement contemporain du prophète.
Alors là, on arrive au Yémen,
voilà,
Michel Arcel,
exactement.
Voilà, et à la bibliothèque de Sana'a, c'est ça.
Voilà. Alors si là, en deux mots, d'abord, je dirais que nous n'avions pas jusqu'à présent de Coran très ancien. Hein. Mm. C'est un peu comme la question des compilations de Hadith ou de la Sirah Nabawiyya, c'est-à-dire la biographie du prophète. Nous avions des textes assez tardifs, très beaux, mais assez tardifs. Certains passaient pour être anciens. Il y en a deux ou trois qu'on fait passer pour le Coran d'Othman avec le sang du calife qui lisait le Coran au moment où il a été assassiné. C'est faux. L'étude philologique, chimique, etc. nous montre que c'est faux. Bien. Nous avions quelques feuillets très très anciens qui sont à Londres, qui sont à Paris, qui sont à Vienne. Bon. En 1965, la grande mosquée de Sana'a au Yémen subit des pluies torrentielles, des petits effondrements, et on découvre une cache dans laquelle il y a des milliers de manuscrits coraniques. Pas seulement coranique, mais beaucoup, énormément, une grande majorité de manuscrits coraniques. Quelques années plus tard, il y a une certaine, on occulte un peu les événements, le bibliothécaire.
On ne connaît peut-être pas la valeur, ou alors peut-être pas tout le monde.
Il semble que le bibliothécaire ait soustrait quelques-uns de ses documents et les ait vendus.
Sosby.
Voilà, exactement.
Oh là.
On en a retrouvé chez Sosby, chez Christie's, absolument. Bon, plusieurs années plus tard, mais bon, on a envoyé une mission là-bas, une mission allemande. Pour aider les Yéménites à conserver ces manuscrits, parce qu'ils avaient refusé que ces manuscrits partent au Danemark pour être étudiés sur place, comme les Danois l'avaient proposé. Et alors, le problème, c'est que toutes les conclusions, toutes les photographies, etc., il y a eu une partie de documents restaurés, mais finalement, on ne sait pas très bien, nous ne possédons pas aujourd'hui d'études exhaustives sur les conséquences qu'on devrait tirer de cette découverte. Mais ce qui est plus important, c'est qu'on retrouve dans ces Corans du Yémen, des versions qui correspondent à ce que nous savons des Corans concurrents du Coran officiel qui ont été éliminés au moment de la sélection, hein, qui a dû se faire effectivement sous le deuxième ou le troisième calife. Bon, à ce moment-là, on a éliminé le Coran de Ali,
Le gendre,
et qui pour les chiites est un égal de Mahomet, et puis qui est secrète, mystique du Coran. Bon, donc le Coran de Ali, la version a été éliminée, et la version de Massoud aussi, un des compagnons du prophète, et celle de Ubay aussi, autre secrétaire du prophète, ont été éliminées. Et nous retrouvons des ordonnancements dans Sana'a, on trouve des ordonnancements qui rappellent ce que nous savons de ces Corans qui ont disparu.
Et qu'avaient-elles de différentes, ces versions?
En réalité, ce qui me passionne, ce que je trouve absolument fantastique, c'est que finalement, ce sont des variations très mineures. Enfin, pour ce que nous en savons, en tout cas, parce que le jour où on aura vraiment établi une édition philologique du Coran en donnant les sources, localisation, alors là, on aura une vision d'ensemble. Mais pour Sanana, par exemple, on n'a pas cette vision, malheureusement.
Donc, ça veut dire que la version officielle canonique aujourd'hui,
elle est assez bonne.
Elle est assez bonne,
certainement. C'est ça qui est fascinant dans cette histoire.
on a cru que ça allait être beaucoup de travail pour rien, finalement.
Pas du tout. Non, c'est très important parce que finalement, notamment, ça enlève beaucoup d'armes aux islamophobes qui, à certains savants que je connais, qui ont tenté de démonter le Coran avec toutes sortes d'arguments.
Oui, mais ça apporte de l'eau au moulin des plus orthodoxes aussi. À ceux qui disent, voilà, c'est le Coran et c'est comme ça, c'est incréé, c'est pas autrement, il n'y a pas 36 lectures à voir, il n'y a qu'une seule lecture.
Non, alors on ne peut pas inférer naturellement d'un texte unique qu'il a été incréé. Bon, ça, je crois que ça, c'est pas possible. Et alors ça, il est bon de rappeler aux musulmans, je crois que c'est très très important aujourd'hui, que sans atteindre aucunement, sans toucher aucunement au respect qu'on doit au texte saint...
La patte humaine.
Non, c'est pas ça. C'est que surtout pendant 20 ans, à Bagdad, les abbassides, qui descendaient de l'oncle du prophète, ont été mutazilites, c'est-à-dire partisans d'un islam rationaliste qui croyait non seulement dans le libre arbitre de l'homme, mais pour ce qui est des questions religieuses, qui croyait que le Coran était créé. Et il y a eu une sorte d'inquisition contre les traditionalistes, ça a été une erreur politique fondamentale, parce que naturellement, 20 ans après, il y a eu un changement de cap, et à ce moment-là, c'est les incréationnistes, si je puis dire, qui l'ont emporté jusqu'aujourd'hui. Bon. Mais il y a eu, pendant 20 ans, l'orthodoxie musulmane, ça a été le Coran créé. Et créé, ça ne veut pas dire qu'il a été inventé par les hommes. Ça veut dire simplement qu'il a été inspiré au prophète, de même que nous pensons généralement, chrétiens ou judéo-chrétiens, que les prophètes hébreux ou Jésus a été inspiré par Dieu. Ça ne veut pas dire naturellement que les mots eux-mêmes, que Dieu parle arabe, si je puis dire.
Alors, pour aujourd'hui, je dirais pour la compréhension de l'islam d'aujourd'hui, cette enquête, enfin, toutes ces enquêtes menées, effectivement, sont essentielles. Mais quelles conséquences ont-elles sur, justement, sur tout le travail autour de l'islam, notamment sur la fameuse question de l'interprétation des textes, de la lecture non littérale des textes?
Vous savez comme moi qu'aujourd'hui, il y a à la fois un durcissement extraordinaire du dogme et de la pensée des fidèles musulmans, qui était beaucoup moins rigide il y a 20 ou 30 ans ou 40 ans. Bon. Et par ailleurs, qu'il existe un courant réformiste, que nous connaissons mal d'ailleurs en Occident, mais il existe ce courant, il existe parfois sur place, des Tunisiens par exemple, on donnait des exemples. En France, il y a eu des penseurs, Harkoun, etc. Bon, il y a des penseurs un peu partout qui ont commencé à réfléchir sur la possibilité de lire l'islam d'une façon un peu différente et de faire éclater ce carcan dogmatique, doctoral, Et je pense que dans ce courant-là, mon travail, mon travail est au milieu de beaucoup d'autres travaux, naturellement, est utile dans ce sens où il apporte à la fois, d'abord, je crois, les éléments, encore une fois, de compréhension et d'échange entre les trois monothéismes, ce qui me paraît quand même la moindre des choses, qu'on se comprenne. Et deuxièmement, ça devrait permettre aussi à certains croyants, en tout cas, qui lisent, qui réfléchissent, qui essayent de remettre en cause leur foi, non pas pour la détruire, mais simplement pour l'éprouver, si je puis dire, d'une autre manière. Eh bien, ça devrait permettre à ces personnes-là, de voir que dans la tradition même, il y a les éléments d'une lecture différente, de lecture au pluriel même différente. Voilà. Quand nous savons par la tradition officielle qu'il y a eu plusieurs Corans, si je puis dire, quand nous savons par la tradition officielle que des sourates ont été perdues, par exemple, 200 versets, qu'est-ce que ça veut dire? Et quand nous savons surtout que le Coran n'a pas été compilé à l'époque du prophète, le prophète s'y refusait. Donc, je crois que tout ça doit permettre de réfléchir.
C'était Michel Orcel. Son livre « L'invention de l'islam » est publié aux éditions Perrin. Après le flash, nous poursuivons cette émission sur les origines de l'islam avec le chercheur et universitaire Mohammad Ali Amir Mouedzi pour son livre « Le Coran silencieux et le Coran parlant » publié chez CNRS Éditions. Restez à l'écoute de RFI.